ごかしごかし。
Bonsoir et merci d'être fidèle à votre grand rendez-vous de la soirée à travers votre émission Dialogue entre Congolais. Adoption mercredi dernier au Sénat du projet de loi sur l'exploitation commune des hydrocarbures entre l'Angola et la RDC. Quel est le contenu de cet accord et quelles garanties pour sa bonne application par les deux pays? 62 sénateurs ont voté pour, 2 d'entre eux ont voté contre et 16 sénateurs se sont abstenus de voter ce projet de loi. Ayant la majorité de voix, ce projet de loi a donc été adopté au Sénat après l'avoir été samedi dernier à l'Assemblée nationale. Selon le ministre des Hydrocarbures, Lambert Mende, la RDC pourra gagner chaque année, grâce à cette exploitation commune, près de 600 millions de dollars américains. Nous avons ce soir 3 invités pour en discuter. Lens Kamwanya, chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques Copérès. Il intervient dans cette émission comme analyste économique. Ezaki Mereko, sénateur PPRD et vice-président de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance au Sénat. Et Gaston Kole Kimwanga, sénateur MLP et rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle du Sénat, il intervient au téléphone. Nos auditeurs ont réagi, chacun selon son point de vue. François Makiambe de Bukavu au Sud Kivu se demande comment se fera l'exploitation commune du pétrole alors que la zone d'intérêt commun entre les deux pays n'est pas encore déterminée. Taylor Itela de Mbandaka dans l'Équateur peut connaître ce que dit la loi au cas où les violents ne s'accordent pas en matière d'exploitation pétrolière. Enfin, Didier Mampouya de Béni au Nord Kivu pense que ce projet de loi fait montre d'une bonne collaboration entre les pays frontaliers. Il estime que cet accord sera bénéfique pour nous. Si elle a baisé, tant soit peu, la misère qui devient de plus en plus un slogan en RDC.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Avant de commencer cette émission, je tiens à signaler que nous avons tenté d'avoir le point de vue du gouvernement angolais, mais dans leur ambassade à Kinshasa, il nous a été dit que seul l'ambassadeur était le mieux placé pour cela. Mais c'est fait qu'il est absent de Kinshasa. Quel est le contenu de l'accord signé entre l'Angola et la RDC à propos de l'exploitation commune du pétrole? C'est la première partie de cette émission. Et quelles sont les grandes lignes de l'accord signé le 30 juillet 2007 à Luanda, en Angola, sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun? Guy Roger Niampala nous les retrace.
Cet accord d'une dizaine d'articles a été signé le 30 juillet dernier à Luanda, en Angola, en présence des chefs d'État de la RDC et de l'Angola. Au terme de cet accord, les deux pays s'engagent à explorer et à exploiter les hydrocarbures sur une zone d'intérêt commun. En son article 3, les deux pays s'engagent à se partager la production à raison des 50% chacun. Étant donné que les deux pays doivent se partager la production, la RDC se trouve dans l'obligation de rembourser à l'Angola la part des frais déjà engagés par ce pays. C'est ce que stipule l'article 4 du dit accord. Les deux parties désigneront chacune 5 experts le mois suivant la ratification de cet accord. Ces experts se chargeront de dresser les termes de référence des modalités de partenariat pour l'exploration, l'exploitation dans cette zone d'intérêt commun. Dans les articles 9 et 10 du dit accord, les parties s'accordent à rechercher des solutions amiables pour résoudre tout litige né de son application. En cas de persistance, elles pourront recourir à l'arbitrage suivant les règles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Cet accord se fera à la fin de l'exploitation commune des hydrocarbures.
Ezaki Mereko, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes sénateur PPRD et vice-président de la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance au Sénat. Votre réaction d'abord par rapport à cet accord?
Ma réaction, elle est évidente, elle est bonne. Et je suis très content de cet accord parce que nous sommes un pays post-conflit qui sont à la recherche des moyens de notre développement de notre pays. Donc tout qui peut concourir au renforcement de la capacité financière de notre pays n'est que bienvenu.
Et nous avons également en ligne Gaston Kole Kimwanga, vous êtes sénateur MLC et rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle toujours au Sénat. Êtes-vous du même avis?
Merci beaucoup, Claude. Je crois que il est vrai que nous avons grandement besoin de ressources et de moyens pour que nous puissions résoudre les problèmes qui se posent au pays. Nous avons besoin d'argent et cet accord doit être considéré comme étant une source très sûre de revenus, mais une source que nous acceptons, dans quelles conditions? Moi, je voudrais savoir si réellement cet accord apporte le bonheur au peuple congolais. C'est la question que je peux me poser, c'est une très bonne chose, nous avons grandement besoin d'argent. Il est vrai qu'il y a des problèmes sur ce qui se posent, les anciens réclament de l'argent, en fait, les améliorations des fonctions de travail. Nous avons très très bien les secteurs de la vie nationale qui réclament cela. Est-ce que toutes ces réclamations doivent nous pousser à prêter, en fait, si je m'excuse d'utiliser ce terme, parce que l'accord, c'est un accord, et au préalable, d'après le texte, il fallait que ces accords soient d'abord provisoires, mais il est grave que nous puissions adopter un accord. Comme tout autre accord, alors c'est, d'après les textes, il fallait que cet accord soit provisoire parce que nous ne connaissons pas encore avec beaucoup d'exactitude les limites maritimes de notre zone. Hein, en fait. Je suis tout à fait d'accord qu'on signe des accords, mais que ce soit des accords qui sont signés dans des bonnes conditions. Voilà.
Merci beaucoup, Lems Kamanya. Vous êtes chargé du projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques coopératives et vous intervenez dans cette émission comme analyste économique. Avis favorable de la part de Isa Kimereko qui estime que la RDC a besoin d'argent et M. Gaston Collet du MSC pense que c'est bien qu'on a besoin d'argent, mais il ne faudrait pas brader les ressources de la République démocratique du Congo. Être un peu prudent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, merci pour la question. Alors, moi, j'ai trois arguments à pouvoir avancer. Le premier, c'est que la signature de cet accord ne vient que matérialiser des recommandations formulées depuis 1991 et des recommandations formulées aussi depuis 1998 en matière de la politique énergétique de notre pays. Je crois que la RDC et l'Angola disposent d'une zone commune où ils peuvent réaliser conjointement l'exploitation pétrolière. Et c'est depuis plus de 10 ans, 15 ans, qu'on a toujours recommandé que les deux pays passent à la phase d'application. Donc la signature de cet accord ne rentre que dans le cadre des recommandations formulées bien avant le gouvernement qui est en place en ce qui concerne l'exploitation par les deux pays de la zone d'intérêt commun dans le cadre de l'exploitation des gisements pétroliers. Je crois que la plupart des experts nationaux qui ont eu à travailler sur la politique pétrolière ou énergétique de notre pays sauront que c'est une recommandation formulée il y a déjà une dizaine d'années.
Mais justement,
la deuxième raison, c'est que nous disons que nous sommes un pays riche. Nous avons des richesses potentielles. Mais je pense qu'il faut quitter la phase des richesses potentielles pour les transformer en richesses réelles, de façon que ces richesses soient profitées à l'ensemble de notre population. C'est pourquoi on ne veut pas qu'il y ait un gel des gisements ou de tout ce que nous avons comme ressources potentielles. Il faut les exploiter pour que ces ressources puissent profiter à l'ensemble de la population. C'est là que j'ai raison des sénateurs ici présents qui disent que c'est une possibilité, c'est un moyen pour notre pays, en partenariat avec l'Angola, qu'il puisse développer cette potentialité latente et que ça soit transformé en une richesse réelle qui soit profitable à travers les deux pays.
Mais justement, puisque vous en parlez, pourquoi la RDC a attendu tout ce temps pour conclure cet accord avec l'Angola alors que l'Angola exploite déjà le pétrole dans cette zone d'intérêt commun?
Oui, non, ils n'exploitent pas encore dans la zone d'intérêt commun. Je pense, vous avez lu dans l'accord, ils ont des... Parce que dans les domaines, parce qu'on n'a pas d'experts sur place, dans les domaines d'activité pétrolière, on distingue toujours trois phases. La première phase, c'est la phase d'exploration, qui demande des moyens importants pour arriver à localiser effectivement les gisements pétroliers et voir dans quelles conditions il faut passer à l'exploitation. Après cette phase, là, vous passez maintenant à la phase de production, de transformation, avant de passer à la phase de distribution. Je crois que ce que l'Angola a fait jusqu'à ce jour, c'est procéder à l'exploration, voir s'il y a des gisements. C'est pourquoi dans cet accord, il est prévu que la RDC puisse rembourser à l'Angola les pourcentages de dépenses que l'Angola a déjà engagées dans le cadre de l'exploration.
C'est-à-dire que l'Angola est déjà active
dans cette activité d'exploration. Et maintenant qu'on doit passer à la phase d'exploitation, comme ils ont eu à décaisser, on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse le rembourser. Si l'Angola a déjà eu à produire, là je n'ai pas de précision. Mais si c'est une exploration, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose.
Voilà. Donc, nous avons également dans ce studio Eva Kimereko, sénateur PPRD. Je vous repose aussi la même question. Vous êtes un politique congolais, vous êtes au Sénat. D'après vous, pourquoi la RDC a attendu quand même assez longtemps pour réagir?
Je pense que la RDC n'a pas attendu. Suivant des éléments en notre possession au niveau du Sénat, c'est un processus qui a commencé, comme dit l'expert, il y a très longtemps. Il y a même un premier rapport, un accord qui a été signé à pratiquement 2003, mais qui avait des imperfections, qu'on a corrigées, qu'on a remis maintenant pour signer l'accord provisoire. Suivant la convention de Montégobé, les deux pays sont en droit de trouver un arrangement provisoire en attendant qu'on détermine la frontière définitive maritime. C'est prévu, c'est légal. Donc ici, on n'a pas bradé le richesse du pays, on n'a rien bradé, on suit le règle universel à la matière de frontières maritimes qui sont déjà préétablies, qui ont déjà été convenues au niveau de Montégobé.
Nous avons également en ligne Gaston Kolechimanga, le sénateur MLC. C'est quoi finalement ces zones d'intérêt commun? Comment on peut les distinguer? C'est 10 kilomètres, c'est à 10 kilomètres de la frontière maritime des côtes congolaises, ou comment on peut connaître un peu ces zones maritimes d'intérêt commun pour nos auditeurs? Allô, monsieur Gaston Kolé? Nous l'avons perdu, nous allons le récupérer bientôt. Je peux vous poser la même question, monsieur le sénateur. Comment est-ce qu'on peut distinguer ces zones d'exploitation communes?
Gilbert, tel que nous sommes ici au studio, c'est un peu abstrait qu'on puisse vous imaginer cette zone-là. Mais il faut seulement imaginer qu'au niveau sur la mer, il y a une partie où on doit savoir avec précision où s'arrêtent les eaux territoriales du côté Congo ou du côté Angola. Mais c'est une partie qui appartient à tout le monde. Il faut qu'on se mette d'accord pour dire, écoutez, ça c'est, ils se sont mis d'accord sur des parties bien déterminées, que c'est la zone commune qu'on doit exploiter ensemble, et puis il y a des mécanismes pour déterminer les frontières définitives.
Et les experts sont déjà actifs pour déterminer...
Mais il est bien dit dans l'accord qu'une fois l'accord ratifié, tel que nous l'avons fait le mercredi dernier,
est-ce que l'Angola l'a fait aussi, a ratifié cet accord?
Ça, je ne peux pas le savoir. Après la signature, il a été recommandé à chaque gouvernement, à chaque pays, de ratifier l'accord. Et il y a un délai à être donné, je crois que c'était 3 mois. Il fallait ratifier l'accord dans les 3 mois qui suivent. Ou 3 mois ou 6 mois, si j'ai bonne souvenance. Donc, de chaque partie, l'applicabilité de l'accord est conditionnée par la ratification par chaque pays de cet accord.
Même comme il y a François Makiambe de Bukavu aussi de Kivu qui voudrait savoir comment se fera l'exploitation commune de pétrole alors que la zone d'intérêt commun entre les deux pays n'est pas encore déterminée.
Non, la zone d'intérêt commun est déterminée. Je pense que ici, si nous voulons faire comprendre la question à nos auditeurs, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que les gens comprennent un peu les concepts appliqués à la production pétrolière. Les deux pays qui ont signé ces accords, je crois au niveau de la... Si vous prenez l'article 2 ou l'article 3, je crois. L'article 5, si vous prenez l'article 5, il est stipulé que la participation des opérateurs dans l'association sera répartie de façon égale entre les parties. C'est-à-dire, pendant la phase d'exploration, on va identifier où sont localisés les différents gisements qui vont faire l'objet de l'exploitation. Et quand ils seront identifiés, maintenant il y aura des opérateurs, donc des sociétés qui viendront pour exploiter. Et là, les sociétés qui vont exploiter, ça ne sera pas des sociétés, non seulement des droits congolais, non seulement des droits angolais, mais il faut que chaque pays puisse désigner de façon égale les différents opérateurs, les différentes sociétés qui viendraient exploiter. Ce n'est pas notre pays en tant qu'État qui va exploiter, ce n'est pas l'Angola en tant qu'État, mais il y aura des opérateurs qui seront désignés par les deux. Et ce qui est important, ça c'est une précision importante, ici on parle d'une zone d'intérêt commun, que les gens ne se mettent pas en tête que les Angolais sont venus exploiter les gisements pétroliers qui se trouvent en RDC. C'est comme l'a dit le sénateur ici présent, nous sommes au niveau de la mer, il y a la frontière de part et d'autre entre les deux pays, mais il y a une partie qui est au milieu des deux, qui n'appartient ni aux Congolais à 100% ni aux Angolais à 100%, c'est ce qu'on appelle la zone d'intérêt commun. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on sache délimiter exactement cette zone pour éviter qu'un pays ne puisse s'empiéter sur l'autre. C'est ce qui est important. Parce que si, par exemple, l'Angola, on délimite très mal cette zone d'intérêt commun, vous allez vous retrouver que les Angolais vont amener des opérateurs qui vont commencer à exploiter les gisements qui sont situés dans la partie congolaise. Mais et c'est là que les gens doivent être très attentifs, surtout les experts, au moment où on va délimiter de manière définitive cette zone d'intérêt commun. Mais quand on est dans la zone d'intérêt commun, là les intérêts des pays sont partagés de façon équitable. Il n'y a pas un pays qui va tricher l'autre ou un pays qui va brader ses ressources au détriment d'un autre pays.
On me dit que Gaston Kolekimanga, sénateur MLC, est déjà en ligne. Est-ce que vous m'écoutez?
Oui, je vous entends très bien. Oui.
Voilà, donc cet accord prévoit un partage de 50% chacun et selon les revenus que devront donner cette exploitation commune. Mais la RDC devra quand même payer à l'Angola les frais qu'il a déjà engagés dans l'exploration. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Bon, je m'excuse parce qu'il y a une coupure. Je crois que à votre niveau, que cette coupure a eu lieu. Moi, je voulais d'abord terminer ma pensée parce que j'étais en train de parler de l'accord. Nous ne sommes pas contre. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la signature de cet accord. Je suis congolais et je voudrais que le peuple, mon peuple à moi, puisse jouir de toutes ces richesses.
Mais vous avez quand même
Je ne voudrais pas reconnaître d'emblée, comme le dit le texte de Montego Bay, là. Il faut d'abord reconnaître que l'accord que nous avons signé, c'était un accord provisoire. Je crois qu'à l'article 83 de la Convention de Montego Bay, il est dit que la délimitation du plateau continental entre États dont les corps sont adjacents ou se font face est effectuée par voie d'accord afin d'aboutir à une solution. Et le point 3, en attendant la conclusion de l'accord visé, les États concernés dans un esprit de compréhension et de coopération font leur possible pour conclure des arrangements provisoires. Donc je voudrais dire que ce que nous avons fait, l'accord que nous avons fait, nous en l'avons adopté, la majorité a adopté, il fallait conclure d'abord des arrangements provisoires pour que demain, après avoir délimité les frontières qui ne se passent sur les eaux, en fait, les frontières maritimes, que nous puissions jouir totalement de richesse de notre pays. Nous ne sommes pas, c'est vrai, je ne suis pas contre la signature ou l'adoption de cet accord de ratification. Le problème se pose à ce niveau-là. Nous avons adopté, en fait, l'accord qui a été adopté au Sénat, c'est comme si on a adopté un accord définitif. Alors que le texte de Montego Bay nous demande de signer, d'accepter des arrangements provisoires. Pourquoi? Parce que les frontières maritimes entre notre pays et la République de l'Angola ne sont pas encore déterminées. C'est à ce niveau qu'il y a un problème pour moi. Oui. Je ne suis pas contre la signature de l'accord, je ne suis pas contre l'adoption que nous avons faite à la Commission au Sénat, mais le point se pose à ce niveau-là, qu'on reconnaisse que ce sont des accords provisoires.
Monsieur le sénateur Ezaki, sénateur du PPRD, n'est pas d'accord avec vous.
Oui, je ne suis pas d'accord avec quelques aspects des problèmes qu'il développe. Au Sénat, on n'a pas approuvé l'accord définitif. Alors, à quoi ça aura servi de dire qu'après l'arrangement provisoire, après l'appel à l'accord provisoire, les deux pays feront appel à des experts pour commencer le processus de l'accord définitif qui délimitera les frontières définitives. Donc l'accord n'est pas définitif à ce stade. L'accord est provisoire. Et ceci est conforme à l'esprit de convention de Montego Bay.
Merci beaucoup. Quelle garantie pour la bonne application de cet accord par les deux pays? C'est la deuxième partie de cette émission. Mais si vous souhaitez réagir ou poser une question, voilà comment il faut procéder.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Existe-t-il une délimitation maritime entre la RDC et l'Angola? Des études dans ce sens sont-elles en cours? Tout ce détail dans cet entretien entre notre confrère Dany Kindanzita, qui est en Matadi au Bas-Congo, et Guy Roger Nyampala.
Dany, dites-nous, existe-t-il une délimitation maritime entre l'Angola et la République démocratique du Congo?
Guy Roger, il est connu de tous que sur le plan international, il y a des limites qui déterminent les zones maritimes nationales et internationales. En ce qui concerne le Bas-Congo, selon un responsable provincial du transport et communication, la délimitation maritime n'est autre que la voie navigable.
Au cours de ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu des investigations entre les experts congolais autour de cette question de délimitation maritime?
Lors des travaux de la signature de l'accord de l'exploitation des hydrocarbures entre la République démocratique du Congo et l'Angola le 30 juillet de cette année, cette question a été abordée par les deux parties pour que l'on précise la délimitation maritime exacte qui sépare les deux pays. Mais selon les informations de nos partenaires au niveau du monde, aucune délégation n'est descendue sur terrain pour effectuer des études en ce sens.
On a connu quelques problèmes au niveau des frontières terrestres entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Plus de précédents au niveau maritime.
Dirigeant au niveau maritime, on signale également quelques différends à ce sujet. Il y a des bateaux angolais qui viennent souvent dans les eaux congolaises, dans les territoires de Mwanda, entre les villages de Tianfumu et Kimwadi. Selon les pêcheurs, les navires angolais détruisent la faune aquatique et leurs filets de pêche. Les autorités locales de ces entités effectuent des voyages en Angola pour résoudre à l'amiable ces problèmes.
Merci, Dani.
Merci, Guy Roger, à la prochaine.
Je me tourne vers vous, merci à nos deux confrères. Je me tourne vers vous, Lems Kamwanya. Je rappelle que vous êtes chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises de copyright et vous intervenez dans cette émission comme analyste économique. Est-ce qu'il y a vraiment des garanties que les deux pays vont respecter cet accord signé? Parce que là où il y a du pétrole, on l'a vu dans d'autres pays africains, ça pose parfois des problèmes.
Oui, je crois que chaque pays doit chercher à se munir des garanties les plus importantes. La première des garanties, ce sont les experts, comme je l'ai évoqué tantôt, parce que l'accord qui a été ratifié par le Sénat porte sur, d'abord, le premier article, il parle de la création de cette zone, parce qu'on ne peut pas conclure un accord tant que l'objet n'existe pas, parce que la zone, elle a été créée. Maintenant, les experts qui seront désignés, ces experts doivent être la première garantie pour chaque pays, parce qu'ils doivent veiller que les limites de cette zone soient vraiment des limites qui se retrouvent à cheval entre les deux pays. Si les experts d'un pays arrivent à faillir à cette tâche qui est importante, à ce moment-là, sûrement il y aura un pays qui sera lésé par rapport à un autre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je crois que c'est là que la plupart des sénateurs ont émis leurs réserves, c'est que l'Angola a déjà procédé à des prospections dans cette zone d'intérêt commun. À ce jour, on a signé cet accord, notre pays s'engage à rembourser à l'Angola les dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exploration de cette zone, mais il n'a pas été cité, même de manière indicative, les coûts de ce que l'Angola a engagé au niveau de cette activité d'exploration dans les prospects qui ont été déjà forés.
Et même les résultats de cette exploration.
Je crois que là, c'est quand même quelque chose d'important. Il faudrait qu'on sache que les coûts qui ont été engagés, ne serait-ce que de manière indicative, qu'on connaisse pour que notre pays sache à quel montant on doit s'attendre à rembourser au niveau de l'Angola. Parce que si, à ce niveau-là également, on arrive à faillir, parce qu'avant de faire la répartition 50%-50%, ça s'est fait déduction de toutes les charges, entre autres celles qui ont été engagées au moment de l'exploration. À ce moment-là, si l'Angola arrive à surestimer ce montant, nous allons nous retrouver avec une portion congrue au niveau des résultats qu'on aura au niveau du pays. Donc là aussi, il faudrait que les experts qui seront désignés soient aussi des experts capables de voir que les coûts que l'Angola va nous présenter comme les coûts d'exploration correspondent à quelque chose qui soit réel pour qu'on ne se retrouve pas chaque année. Au moins, on va se faire le partage après déduction de ces coûts d'exploration, on se retrouve avec une portion congrue.
Ezaki Mereko, vous êtes sénateur au PPRD et vice-président de la Commission économique et financière et de la bonne gouvernance au Sénat. Est-ce que vous avez tenu compte de ce coût dont parle Lems Kamwanya et même des résultats de ces explorations angolaises?
Je confirme la réserve que mes collègues sénateurs ont émise en ce qui concerne le principe de rembourser à l'Angola les frais exposés dans le cadre de l'exploration de pétrole dans la zone commune. Je le confirme. Mais il y a un élément important. Il a bien dit que la première garantie pour les deux États, ce sont les experts qu'ils envoient pour examiner cette situation. Dans le problème des coûts, je crois que l'accord n'a déterminé que le principe, mais l'effectivité n'est pas encore là. Parce qu'on doit savoir, est-ce que ces dépenses ont été effectivement effectuées dans le cadre de l'exploration dans la zone commune? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dépenses qu'on a faites ailleurs, qu'on a affectées pour besoin de la cause dans l'exploration de la zone commune? Et ces dépenses sont à quel niveau? Je prends un simple exemple. Si ces dépenses sont de 5 milliards, et notre budget n'atteint même pas 5 milliards, donc nous avons tout intérêt à regarder de près cette dépense. Les sénateurs ont insisté sur ce point-là auprès du gouvernement pour qu'on regarde de près de très près ces chiffres. C'est le principe des remboursés qui a été accepté. Mais l'effectivité, ça c'est le travail des experts qui doivent creuser la terre plus profond pour savoir de quoi remontent ces chiffres, de quelles sont ces rubriques effectives qui ont droit, qui ont été utilisées dans le cadre de la zone commune.
Merci beaucoup, M. Zatir. Gaston Collet-Chimanga, je rappelle que vous êtes sénateur MSC. Votre réaction par rapport à ce problème de coût, est-ce que vous en avez tenu compte et surtout le résultat des explorations, quand même, puisque l'Angola a exploré cette zone d'exploitation commune?
Je voudrais vous dire que ce sont des problèmes de bâtiments sérieux pour le pays. Je vous ai dit qu'il fallait d'abord accepter que ce sont des accords, c'est un accord provisoire. Ensuite, nous devions d'abord dépêcher, comme mon collègue est en train de le dire, on devait d'abord avoir une délégation certaine compagnie, nos experts. Donc, l'unité des frontières maritimes entre l'Angola et la RD Congo. Ensuite, il se pose le problème de dépenses qui sont engagées par la République sœur d'Angola. L'Angola a déjà amorcé des explorations sur la mer et il nous est demandé dans cet accord de rembourser à ce pays, en quelque sorte, nous allons qu'on nous partage les dépenses que l'Angola a engagées pendant la période d'exploration. Qu'est-ce qui prouve que l'Angola va nous présenter une facture exacte, réelle?
Est-ce qu'on a les moyens de vérifier les dépenses effectuées par l'Angola?
Ce sont des problèmes qui se posent sans doute. Est-ce que nous avons les moyens pour vérifier les dépenses qui sont engagées par l'Angola et qui doivent être remboursées par notre pays? C'est parce que nous avons des problèmes, parce que nous avons accepté de nous partager le bénéfice, le recette, mais il est possible que l'Angola, dans la présentation de la facture, l'Angola puisse présenter une facture qui dépasse les possibilités ou les bénéfices que la RD Congo va recevoir pendant 5-10 ans. Donc ce sera un travail inutile. C'est la raison pour laquelle nous, personnellement, moi j'avais estimé qu'on puisse commencer d'abord par délimiter les frontières maritimes pour savoir dans quel espace, dans quel temps nous avons une zone d'intérêt commun, comme on l'a dit, mais je pense que cette zone d'intérêt, cette zone peut se trouver entièrement dans notre propre territoire. Au lieu de partager ces richesses avec l'Angola, je crois qu'il serait bon que les Congolais acceptent de bénéficier de ces richesses, à condition que les experts défendent qu'il est lieu, nous fassent le rapport du travail qu'ils ont fait là-bas pour que nous puissions décider d'un accord définitif. Mais nous avons adopté un accord qui va, bien sûr, que bientôt le droit de l'homme va le promulguer. Je crois que cet accord va entrer en application. Nous sommes obligés, je dis bien, nous sommes obligés de rembourser à l'Angola tous les frais que l'Angola a dépensés dans l'exploration. Nous étions absents lorsque l'Angola a fait l'exploration et nous invite à rembourser l'argent. On nous invite maintenant à exploiter ensemble. Et je suis tout à fait convaincu que la facture sera présentée, sera supérieure aux frais que la République démocratique du Congo devra nous bénéficier dans la 3-4-5.
Je voudrais que vous puissiez éclaircir un peu nos auditeurs. Est-ce qu'on peut dire que chacun peut exploiter le pétrole dans la partie qu'il occupe, mais il y a une zone d'exploitation commune que les deux se partagent? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire pour que nos auditeurs puissent comprendre?
Je voudrais dire qu'il y a une zone qui doit être exploité par les deux pays ensemble. Mais nous avons, d'après l'accord que nous avons adopté au Sénat, l'Angola a déjà fait les premiers travaux, les travaux d'exploration, exploratoire, les travaux qui ont déjà été faits. Il nous appartient maintenant à nous, Congolais, de pouvoir rembourser d'abord à l'Angola l'argent qu'il a dépensé pour l'exploration, ensuite nous mettre ensemble pour l'exploitation de cette zone d'intérêt commun. Donc, il est vrai, ça, ton point de vue tout à fait personnel, que l'Angola pourra nous présenter une facture qui va au-delà de ce que la RD peut bénéficier pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et je crois que c'est ça, on travaille ici. La raison pour laquelle nous avons préféré qu'il y ait d'abord des limitations, des frontières, et que notre pays se fasse violence pour exploiter sa propre zone.
Merci beaucoup, Isaac Chimereko. Sénateur Pépère n'est pas d'accord avec vous. Votre réaction?
Oui, il faut d'abord souligner une chose. Le mécanisme de détermination des frontières maritimes sont complexes et prennent beaucoup de facteurs de temps. Attendre qu'on ait d'abord la frontière maritime définitive, c'est priver le pays dans l'entretemps de ses ressources qu'elle peut utiliser. Le présent processus, on a commencé à 2000. Ça se concrétise à peine à 2007. Ça veut dire qu'il y a un temps. Mais vous savez que nous sommes entourés par des problèmes. Le pays est à la recherche de moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins de développement. Mais en attendant qu'on arrive à la signature définitive, à la détermination définitive des frontières maritimes, ce n'est pas mauvais que dans l'entretemps que le pays tire quelque chose. Et de deux, quand vous acceptez le principe de partager le bénéfice, il va de soi qu'on accepte aussi le principe de supporter les frais au prorata de bénéfices qu'on reçoit.
Merci.
Donc, je voudrais seulement préciser ici, le remboursement de frais exposés par l'Angola n'est pas un préalable. N'est pas un préalable pour toute l'action que le pays va amorcer dans le cadre d'exploration. Ce n'est pas un préalable.
Merci. Oui, terminez rapidement.
Oui, je termine. Ce n'est pas un préalable. Le pays a convenu avec l'autre pays. Il faut quand même un minimum de bonne foi. Si Angola présente des factures, pièges, entre guillemets, mais nous avons dit qu'on met des experts sur pied. Nous, c'est la qualité des experts que nous mettrons qui vont déterminer cette situation.
Merci beaucoup, Lems Kamania. Vous sembliez aussi ne pas être d'accord avec Gaston Koleti Mwanga.
Oui, non, je n'étais pas d'accord avec lui au moment où il voulait dire que les remboursements des dépenses engagées par l'Angola est considéré comme un préalable. Non, il n'est pas dit que notre pays va se mettre d'abord à rembourser aux Angolais les dépenses engagées avant de commencer de bénéficier. Ces remboursements doivent se faire sur les intérêts que le pays devra tirer au moment du partage. Généralement, ça se passe comment? C'est au moment où les gisements sont en exploitation, quand on a les recettes, avant de procéder au partage 50%, c'est là qu'on procède maintenant à la déduction des dépenses engagées dans ce cadre-là. Donc, ces déductions-là ne pourra être opérée que sur les revenus qui seront générés par l'exploitation de l'activité pétrolière, et non pas de manière primordiale, donc pas comme un préalable. Seulement, moi, c'est que j'avais une autre inquiétude, parce qu'aujourd'hui, on impose à notre pays de rembourser à l'Angola les dépenses engagées dans le cadre de prospection antérieure à la signature de cet accord. Mais si vous lisez l'article 2, en délimitant cette zone, on semble reconnaître qu'il y a certains gisements qui sont déjà en exploitation. Si l'Angola aille déjà à exploiter...
Dans la zone d'exploitation,
oui, combien? Apparemment, si vous lisez l'article 2, on dit que ces gisements sont en phase d'exploration, de développement ou en exploitation. C'est-à-dire, à ce moment-là, si il se fait qu'au moment de la délimitation, qu'on se rende compte que l'Angola a déjà eu à exploiter, à ce moment-là, il faudrait que notre pays soit aussi en mesure d'exiger sa quote-part sur ce qui a été exploité par l'Angola dans la zone d'intérêt commun. Ça, c'est quand même un élément important que, malheureusement, qu'il ne figure pas dans cet accord qui a été signé.
Le ministre des Hydrocarbures a parlé d'à peu près 600 millions de dollars que la RDC pourrait retirer de l'exploitation commune du pétrole chaque année. Est-ce que vous pensez que ce montant est réaliste?
En tout cas, en tant qu'expert, je me réserve de me prononcer sur un montant qui ne ressort pas d'une étude ou d'un business plan réaliste. Il faut qu'on sache quel sera le niveau de production du pétrole en baril, à quel cours on va vendre ça, quelle sera la hauteur des charges, pour qu'on se dise au finish on peut avoir un tel montant. Mais de manière ramassée comme ça, je ne me permets pas de pouvoir confirmer un tel montant.
Bonsoir, Denis Diboko.
Bonsoir, Claude.
Est-ce que les auditeurs ont réagi? Qu'est-ce qu'il dit?
Nous avons Théo Dissiro dans la province orientale qui veut connaître ce que fera le gouvernement congolais en cas de partage inégal au profit de l'Angola, étant donné sa faiblesse manifeste des gouvernants congolais. Jaroul Bissabo de Guémena dans l'Équateur ne voit pas comment se passera la coopération entre les deux pays pour le pétrole, alors qu'ils sont en désaccord par rapport à d'autres sujets. Nous avons Martin de Béni au Nord Kivu qui pense que l'exploitation des hydrocarbures sera utile si elle se fait au bénéfice du peuple congolais. Et enfin, Norbert Neissou dans la province orientale pose la question suivante. Pourquoi la RDC a accepté de signer un accord sur l'exploitation commune de pétrole avec l'Angola pendant que le conflit frontalier qui les oppose n'est pas encore réglé?
Monsieur Evati Mereko, je rappelle que vous êtes sénateur PPRD, Théo Dissiro dans la province orientale veut connaître ce que fera le gouvernement congolais en cas de partage inégal au profit de l'Angola, étant donné la faiblesse manifeste des gouvernements congolais. Beaucoup d'auditeurs aussi parlent de cette faiblesse de la RDC par rapport à l'Angola et s'inquiètent du partage de revenus.
Je voudrais d'abord souligner une chose. La plupart des accords sont signés pendant que les deux pays ne sont accomplis. Et puis, très souvent, quand nous avons des accords dans les cadres commerciaux, c'est une question de bonne foi, une question de stratégie. Mais il n'est pas, tel que l'accord est conçu, il n'est pas possible que l'une partie prenne un peu plus que l'autre. Parce que l'accord a bien prévu qu'on détermine des experts à nombre égal qui examinent la matière, chacun voit ses intérêts.
Excusez-moi, M. Zaki, vous avez parlé par deux fois du principe de bonne foi en relations internationales, mais il se fait que dans les relations entre les États, ce principe n'est toujours pas mis en pratique, il n'est pas respecté.
Oui, il n'est pas respecté dans une histoire de relativiser les choses. Il faut relativiser les choses en ce qui concerne le cas précis qui nous concerne ici. C'est un problème d'intérêt. Mais pour ces intérêts, on a mis deux équipes en place pour que chacune veille aux intérêts de l'autre. Donc, je ne vois pas la possibilité que l'autre partie prenne plus que l'autre. Parce que c'était l'espace commun. Et je prends la façon à un point où si la détermination définitive de la frontière maritime venait à démontrer qu'il y a une partie que l'Angola avait déjà exploitée, mais il va de soi qu'on réclame à l'Angola le prêt qu'il a perçu, que doit aussi être partagé avec la République démocratique du Congo.
Mais est-ce que ce n'est pas peut-être cette crainte-là de l'Angola, peut-être d'avoir peut-être violé cet accord. Est-ce que ce n'est pas parce que l'Angola se sent peut-être en position de faiblesse quelque part, ou se repose sur quelque chose que l'Angola a pu accepter comme ça sans contestation de partager les revenus qui pourront provenir de l'exploitation commune?
Mais je crois que le fait d'avoir accepté, je vais donner un exemple très simple. Vous trouvez quelqu'un dans votre champ, il est en train de cueillir quelques produits de votre champ. Vous le surprenez. Il dit non, comme j'ai déjà cueilli quelque chose, mais je vous donne d'abord ce que j'ai déjà cueilli, le reste on voit comment il faut faire.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là que l'Angola exploite déjà? C'est pourquoi, surpris par la RDC, l'Angola fait du non au signe de
l'Angola sait que c'est une partie commune. Tant que ce n'est pas déterminé, c'est une partie commune. Mais cette partie commune, il est partie d'une manière unilatérale commencer à explorer. Ça veut dire quelque part, elle est dans une position de faiblesse, c'est tout à fait normal. Mais là, il dit, écoutez, je suis déjà là, alors, en attendant qu'on détermine les biens maritimes, nous pouvons exploiter ensemble, mais accepter que j'ai déjà fait des frais, et ces frais-là, justement, qu'on va les garder avec beaucoup plus d'attention avant d'arriver à les rembourser.
Merci beaucoup, Gaston Cole et Chimanga. Il y a Norbert Neissou dans la province orientale qui pose la question suivante. Pourquoi la RDC a accepté de signer un accord sur l'exploitation commune de pétrole avec l'Angola pendant que le conflit frontalier qui les oppose n'est pas encore réglé?
Bon, je voudrais d'abord remarquer ceci. Moi, je n'ai pas dit qu'il faudrait, comme Gaston vient de le dire, mon frère Tamoignan, que j'ai demandé d'abord le remboursement des frais d'exploitation à l'Angola. Plutôt les frais d'exploration, nous devons rembourser d'abord les frais d'exploration. Moi, je n'ai pas dit cela. et dit ceci, je dis que nous, notre pays accepte, nous sommes déjà engagés à rembourser les frais d'exploration. Et il se pourrait que l'Angola, demain, présente la sous-facture. Et nous sommes déjà condamnés, contraints à payer cette facture-là. Ça, c'est de un. De deux, l'Angola, il est vrai, l'Angola a déjà commencé l'exploitation. Qu'on ne se dise pas, qu'on ne reste pas dans les nuages, il est vrai que l'Angola a déjà commencé l'exploitation.
Mais est-ce que vous avez des preuves pour dire que vous attirez que l'Angola a commencé
L'Angola a déjà, tout à l'heure, mon collègue, ça, vous a dit que vous trouvez quelqu'un qui a occupé votre champ, qui vous demande de vous présenter. L'Angola ne vous a pas demandé, n'a pas dit qu'il va nous donner, il ne va pas nous partager ce qu'elle a déjà exploité. L'Angola nous pose des conditions. Accepte que nous puissions exploiter cette zone d'intérêt commun ensemble, à condition que nous acceptions de rembourser les frais d'exploration.
Et qui gagne dans ce cas?
Rembourser.
Qui gagne?
Je ne connais pas la facture. Mais notre pays a besoin de cet argent-là. Aujourd'hui, nous acceptons que nous remboursions à l'Angola autant. Parce que nous sommes déjà engagés à recevoir 50%. Mais si la facture que nous présente est au-dessus de ce que nous allons percevoir pendant 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que nous allons accepter de payer cette facture? Je pense que oui, parce que nous sommes déjà engagés par cet accord.
Merci beaucoup.
L'inquiétude, la crainte que moi j'exprime.
Donc,
vous posez la question de savoir, il y a un auditeur qui demande pourquoi notre pays a-t-il accepté de signer des accords avec un pays, en Angola, entre autres, pendant que nous sommes encore en conflit.
En un seul mot, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais dire qu'il n'est pas exclu que parce que nous sommes en conflit avec tel ou tel pays, nous ne pouvons pas signer des accords.
Merci. Mais
que ces accords soient signés en bonne et due forme, d'une manière sincère.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Emso Kamonia, Martin de Béni, au nord, si vous pensez que l'exploitation des hydrocarbures sera utile si elle se fait au bénéfice du peuple congolais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est pourquoi j'ai insisté sur la garantie dans cette coopération, ce sont les experts que nous allons désigner. Et moi, je pense que le gouvernement congolais doit choisir les experts, les meilleurs, et au besoin, il peut même se faire assister par des experts étrangers qui sont spécialistes dans la matière, parce que nous connaissons la faiblesse de nous, les Congolais. On va vous envoyer dans une mission qui est importante pour le pays. Les gens peuvent partir là-bas, on va les distraire avec des miettes et ils vont rentrer ici chercher à se payer des parcelles ou des véhicules et compromettre les intérêts de toute une population.
Et vous pensez que les experts étrangers ne peuvent pas aussi se faire corrompre?
Non, c'est-à-dire, il y a ces problèmes-là, mais il y en a qui, des sociétés qui ont des renommées internationales, qui peuvent assister les pays, surtout que ce sont des domaines où on a besoin vraiment d'une expertise de poigne. S'il faut se faire, je dis que c'est au conditionnel, s'il faut se faire assister par ceux-là, qui peuvent quand même permettre de limiter les dégâts pour qu'on ne soit pas roulé dans la farine, je crois que c'est important. Si on a des experts qui sont complaisants, à ce moment-là, il y a risque de se dire on ne peut pas escompter grand-chose dans la signature de cet accord.
Monsieur Zachi, peut-être un dernier mot.
Je voudrais donner des précisions à l'intention de notre spectateur, de nos auditeurs. Je veux dire, pour le cas qui nous concerne ici des contrats avec l'Angola, l'initiative ne vient pas de l'Angola. L'initiative vient de notre pays depuis 2000. C'est notre pays qui a demandé à l'Angola qu'on arrive à cet arrangement-là. Donc l'initiative vient de nous. Alors, deuxième précision, ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté que nous devons voir les diables partout. On ne doit pas voir les diables partout. Il faut quand même qu'on ait un minimum de confiance en nous-mêmes.
Merci beaucoup. C'est par cette parole de confiance que nous terminons cette émission. Nadine Foul a été à la réalisation. Mimi Kindo à la mise en onde et Guy Roger Nyampala préparé pour vous cette émission. Merci à nos invités, à tous nos auditeurs pour leur participation. Au revoir et bonne soirée sur Radio Capi. I'm going to go to the next slide.